envers la parole qui va nous être lue, notre disponibilité aussi.
À l'écoute. Je vais donc lire un passage dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 19 et 20. Évangile selon Matthieu, chapitre 19, à partir du verset 27. Alors Pierre prit la parole et lui dit à Jésus, « Voici que nous avons tout quitté et que nous t'avons suivi. Qu'en sera-t-il pour nous ?» Jésus leur répondit, « En vérité, je vous le dis, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur son trône de gloire, vous de même qui m'avez suivi, vous serez assis sur 12 trônes, et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Et quiconque aura quitté, à cause de mon nom, maison, frère, sœur, père, mère, femme, enfant ou terre, recevra beaucoup plus et héritera la vie éternelle. Plusieurs des premiers seront les derniers, et plusieurs des derniers seront les premiers. Car le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui sortit dès le matin afin d'embaucher des ouvriers pour sa vigne. Il se mit d'accord avec les ouvriers pour un denier par jour, et les envoya dans sa vigne. Il sortit vers la troisième heure, en vit d'autres qui étaient sur la place sans rien faire, et leur dit, « Allez, vous aussi à ma vigne, et je vous donnerai ce qui est juste. » Ils y allèrent. Il sortit de nouveau vers la sixième heure, puis vers la neuvième heure, et il fit de même. Vers la onzième heure, il sortit encore, en trouva d'autres qui se tenaient encore là, et leur dit, « Pourquoi vous tenez-vous ici toute la journée sans rien faire ?» Ils lui répondirent, « C'est que personne ne nous a embauchés. »« Allez-vous aussi dans la vigne, leur dit-il. » Le soir venu, le maître de la vigne dit à son intendant, « Appelle les ouvriers et paie-leur leur salaire en allant des derniers aux premiers. » Ceux de la onzième heure vinrent et reçurent chacun un denier. Les premiers vinrent ensuite, pensant recevoir davantage. Mais ils reçurent eux aussi chacun un denier. En le recevant, ils murmurèrent contre le maître de la maison et dirent, « Ces derniers venus n'ont fait qu'une heure, et tu les traites à l'égal de nous, qui avons supporté le poids du jour et de la chaleur. » Le maître répondit à l'un d'eux, « Mon ami, je ne te fais pas tort. N'as-tu pas été d'accord avec moi pour un denier ? Prends ce qui est à toi et va-t'en. Je veux donner à celui qui est le dernier autant qu'à toi. Ne m'est-il pas permis de faire de mes biens ce que je veux ? Ou vois-tu d'un mauvais œil que je sois bon ? Ainsi les derniers seront les premiers, et les premiers seront les derniers. » Je propose de vous asseoir et je vais prier pour nous. Grand Dieu, tu nous as donné les saintes Écritures pour que par elles nous soyons repris et édifiés. Qu'elles nous travaillent donc au corps. En particulier, veuille nous édifier dans une plus grande conformité à Jésus-Christ, notre bon maître, notre guide. Permet que nous laissions de côté nos valeurs, nos préconceptions, pour mieux entendre quelle est ta bonté et comment elle se manifeste, non seulement envers nous, mais envers tout un chacun. Fait que tous parmi nous, petits ou grands, forts ou faibles, premiers ou derniers, désirent se mettre et se remettre à l'œuvre à la suite de Jésus-Christ. Et c'est en son nom que nous te prions. Amen. Le sujet qui va nous occuper ce matin, c'est la bonté de Dieu, et plus particulièrement l'abondance de sa bonté. Oui, sa bonté va très loin. Comme nous l'avons entendu tout à l'heure, dans le psaume 113, « De la poussière, il redresse le faible, du fumier, il relève le pauvre, pour les faire siéger avec les notables de son peuple. » Notre bon Dieu est du genre à faire primer les derniers des membres de son peuple. Il prend des gueux et il en fait des rois, comme tous les autres. C'est censé être une très bonne nouvelle, et je crois que ça l'est. Mais ce genre de promotion tous azimuts pourrait faire grincer des dents, évidemment. Se pourrait-il que la bonté de Dieu aille beaucoup trop loin ? Mais qui pourrait bien trouver à redire à la bonté divine ? Eh bien, tous ceux qui sont attachés au mérite. Et disons-le, je crois que c'est tout le monde parmi nous. Notre texte présente peut-être même un défi particulier pour ceux d'entre nous qui sont immergés depuis longtemps dans la culture méritocratique française. Une culture qui mettant l'accent sur les concours et pas vraiment sur les passerelles. Est-ce que nous allons nous laisser façonner par la largesse de Dieu ce matin, son ouverture d'esprit? Ou est-ce que nous allons voir d'un mauvais œil qu'il est bon? Voyez-vous, notre Dieu n'est pas du genre à suivre ce que nous appellerions les bonnes manières, le bon ordre des choses, les meilleures pratiques. Bien plutôt, il va chercher loin, il va surprendre, il va niveler par le haut. Ses voies sont somptuaires, elles sont fantaisistes, elles sont troublantes. Il administre son domaine, puisque l'économie c'est l'administration d'un domaine, comme il lui plaît. Son économie lui est propre, il est Dieu justement, alors qu'il lui soit permis d'être Dieu. Dieu est la référence en toutes choses, y compris en matière de bonté. Un peu plus tôt dans le chapitre 19 de l'évangile de Matthieu, Jésus avait justement eu ces paroles à la bouche. « Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon ? Un seul est bon. » Sous-entendu, Dieu seul est bon. Dieu seul est bon, auquel cas ce qui lui semble bon est le standard de la bonté. Un point, c'est tout. Mais alors, se pourrait-il que, livré à nous-mêmes, nous n'ayons pas vraiment idée de ce qu'est la bonté ? Vous et moi croyons savoir de quoi nous parlons. Parce que nous pensons avoir des moments où nous sommes bons, n'est-ce pas ? Et pourtant, la bonté que nous manifestons ici et là, autour de nous, est-elle divine ? Est-elle inclusive ? Est-elle désintéressée ? Est-elle subversive ? Est-ce qu'elle rebat les cartes pour le plus grand nombre et donne des opportunités inespérées ? Quand l'évêque de Digne, Monseigneur Bienvenu, accorde à Jean Valjean une paire de chandeliers d'argent, il lui ouvre un horizon nouveau, même le ciel. Quant à nous, est-ce que notre bonté va en premier vers des gens qui sont paumés ? Autant dire que ceux parmi nous qui se décriraient comme les serviteurs de l'Éternel vont en prendre pour leur grade ce matin, et moi le premier. On est bon pour se mettre à l'écoute du Maître et pour réapprendre à son contact ce qui est vraiment la bonté. Au passage, cette leçon ne laissera pas indifférent ceux d'entre nous qui seraient de simples curieux jusque-là. Peut-être vous n'aviez pas vraiment envisagé de vous mettre au service de l'Éternel jusque-là. Et voilà que la bonté de Dieu va vous rattraper, vous mobiliser pour le temps qu'il vous reste à vivre. Le bon Dieu veut vous embaucher, vous aussi. Qui que vous soyez, il vous veut à ses côtés, dans sa moisson. Vous pensiez être disqualifié, et bien même à la dernière heure, il y a encore de la place pour le service du Seigneur. Et même si vous étiez bon dernier, vous vous en sortiriez à très bon compte. Premier point à partir des versets 27 à 29. Jésus-Christ paye très bien. Jésus-Christ paye très bien. Verset 27, Pierre prit la parole et dit à Jésus, « Voici que nous avons tout quitté et que nous t'avons suivi. Qu'en sera-t-il pour nous ?» Dans le contexte, Jésus vient d'avoir un échange avec le jeune homme riche. À la fin de cet échange, les disciples ne savent plus trop quoi penser. Jésus a dit qu'il est impossible aux hommes d'avoir la vie éternelle. Et dans le même temps, il a affirmé que Dieu peut rendre possible même ce qui est impossible. Et donc, les disciples ne savent plus trop quoi penser. En tout cas, Pierre, il a bien entendu Jésus demander au jeune homme riche de tout quitter et de le suivre. Or, les disciples, eux, ont fait précisément cela. Alors, quel espoir est permis ? Mais tout de même, c'est une question un peu fébrile qui est posée par Pierre. Qu'en sera-t-il pour nous ? Et qui sait, en plus de la fébrilité, il y a peut-être aussi de l'amertume dans cette question. Ils ont tout quitté à sa suite. Et ensuite, à quoi bon ? Avec les versets 28, Pierre et les autres n'ont pas à s'inquiéter. La réponse de Jésus indique qu'il est un bon maître. Il leur donnera toutes choses en abondance et plus encore. Quand on y réfléchit, c'est fou la proposition qu'il leur fait. Il parle à des petites gens sans arrière-plan. Regardez ce qu'il leur promet, verset 28. « Quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur son trône de gloire, vous de même qui m'avez suivi, vous serez assis sur 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. » Cette bande de Galiléens aura l'occasion d'occuper des trônes, de prendre la tête de tribu. Ils avaient quitté leur filet pour se mettre à la suite d'un rabbi inconnu, et les voilà promus pour régner sur l'univers avec lui. Alors on peut certes parler de récompense. En même temps, c'est tellement disproportionné. Le paiement final est sans rapport avec le poids de la décision initiale de suivre Jésus. À ce compte-là, qui oserait même mentionner et rappeler la démarche du disciple, tout ce qu'elle a impliqué? Quel chrétien oserait mettre l'accent sur les œuvres qui lui ont été données de faire toute une vie durant, vu la récompense immense qui les attend? Et le chemin n'est pas si pénible qu'on le croirait. Il est agrémenté de belles relations et de ressources diverses, comme nous allons le voir dans un instant. Telle est la bonté du Dieu de Jésus-Christ, qui donne au point de faire oublier les peines, les troubles, les investissements de toute une vie chrétienne. Jésus-Christ paye très bien. Mais nos amis, collègues, cousins nous diront peut-être comment savoir que ce Jésus-Christ paye rubis sur l'ongle. L'histoire du monde ne montre-t-elle pas plutôt que, loin d'être cajolés, les chrétiens ont plutôt tendance à être plus persécutés, persécutés à cause de ce Jésus-Christ? Allez regarder de plus près, toutefois, même au milieu de ces troubles, vous constaterez que ce ne sont pas les chrétiens affligés qui se plaignent. Et pourquoi cela? Parce que ceux-ci, d'où qu'ils soient, de Chine, d'Inde ou d'ailleurs, valident le verset 29. Tout ce qu'ils perdent, ils disent le retrouver autrement. Ils ne sont pas malheureux. Ils savent où ils vont et ils se disent bien accompagnés. De leurs yeux, ils voient des choses merveilleuses dont nous n'avons pas toujours idée. Dans sa souveraineté, effectivement, Dieu ne manque pas de mobiliser une église universelle. Interrogez donc un musulman converti au christianisme et vous verrez tout ce qu'il dit du réseau d'entraide qu'il a pu trouver. Ou écoutez les témoignages qui nous viennent de certains pays où la persécution sévit. Tout témoignage qui suggère que Jésus paye très bien, même dès à présent. Il mobilise une église pour que des dons, des ressources parviennent et soulagent comme il convient. Mais si ce premier élément de réponse, ces indications ne nous suffisaient pas, il nous faudrait regarder à la gloire du ressuscité. Regardez jusqu'à la personne qui, pendant 40 jours après la résurrection, a eu un pied ici-bas et un pied dans l'éternité. Ultimement, c'est en laissant la porte ouverte à l'éternité que l'on se convaincra que Jésus-Christ paye un rubis sur l'ongle. La gloire de la résurrection, elle valide la rétribution qui est mentionnée au verset 29. Tout est là, à nous de soupeser. Jésus-Christ est entré dans sa gloire, il a retrouvé tout ce qu'il avait laissé, plus encore. Et je crois qu'il faut soupeser ce genre de fait, la résurrection, et tout ce qu'elle implique. Il faut s'y mettre avec lucidité. Ce verset 29, qui nous promet de retrouver plus que nous ne laissons, nous devons nous y frotter aujourd'hui, sinon nous serons paralysés. Je suis persuadé que beaucoup de personnes, à Paris et ailleurs, sont incapables d'aller plus loin dans leur exploration de la foi chrétienne, non parce qu'ils la croiraient fausse, mais parce qu'ils ont trop peur d'y perdre au change. Peut-être que certains d'entre vous sont dans ce cas de figure. Et peut-être que certains autres parmi vous, quoique chrétiens, sont tentés par l'amertume. Avec le verset 29, vous aurez compris comme moi qu'on risquerait au cours d'une vie chrétienne de perdre maison, frère, sœur, père, mère, femme, enfant ou terre. Alors entendons ceci haut et fort, Jésus-Christ paye très bien. Dieu n'est pas chiche. Tout ce que nous laissons derrière, nous le retrouverons autrement. Nous avons de bonnes perspectives pour nous lancer et nous relancer dans l'aventure chrétienne. On est à la fin du mois de février, les bonnes résolutions sont derrière nous, la fatigue s'installe et la période de carême arrive. Qui a envie de se remotiver à la suite du Christ sur un chemin de croix, sur un chemin que Pierre et d'autres ont franchi avant nous. Nous devons entendre ceci, Jésus-Christ paye très bien. Dans cette belle phrase d'un prédicateur anglais du 17e, du nom de Philip, il n'est pas fou celui qui se sépare de ce qu'il ne peut pas garder, quand il est sûr d'être récompensé par ce qu'il ne pourra pas perdre. Et cette même idée sera paraphrasée par la suite par un missionnaire du nom de Jim Elliot, qui allait trouver la mort en 1956, de la main des Amérindiens qu'il cherchait à toucher avec l'Évangile. Je vous la lis. « Il n'est pas fou celui qui donne ce qu'il ne peut pas garder pour gagner ce qu'il ne peut pas perdre. Il n'est pas fou celui qui donne ce qu'il ne peut pas garder pour gagner ce qu'il ne peut pas perdre. » Cette première partie de la réponse de Jésus, nous devons absolument l'entendre pour nous accrocher, pour persévérer. Et en même temps, je crois que nous pouvons l'entendre, en un sens. On peut l'entendre sans être trop remis en cause, sans être trop bousculé dans notre religion, dans notre vision du monde. Par contre, est-ce que nous pouvons entendre la suite, la seconde partie ? Il est temps de nous tourner vers la parabole, justement, et pas seulement la parabole, mais le verset 30 également, qui l'introduit. Nos traductions ne rendent pas toujours la particule adversative qui est au début du verset 30. Et pourtant, voilà la nuance qu'il ne faut pas rater. Mais plusieurs des premiers seront les derniers, et plusieurs des derniers seront les premiers. Mais la parabole, elle vient pour apporter une précision cruciale, comme pour s'assurer qu'il n'y a pas de malentendu. Second point à partir du verset 30 et suivant. Jésus-Christ paye trop bien. Jésus-Christ paye trop bien. Cette parabole nous présente un maître trop généreux. Il administre son domaine de manière trop fantaisiste. Il se plaît à ce que celui qui a beaucoup n'ait rien de trop et que celui qui a peu ne manque de rien. Il s'est donc mis en tête de surabonder la paye des derniers venus pour que tous soient payés au maximum. Et au passage, il bouleverse l'économie locale. Il met le marché du travail sens dessus-dessous. Et non seulement il va payer les derniers au même niveau que les premiers, mais encore il va payer en premier les derniers. Qu'est-ce qu'on pense de toute cette histoire ? Si nous sommes chrétiens de longue date, si nous avons peiné, si nous avons lutté, si nous avons œuvré dans la sanctification, si nous avons combattu avec le Christ, pour le Christ, essuyé des coups, et bien cette parole ne manquera pas de nous interpeller. Il m'arrive en effet, plus souvent que je le voudrais, de tomber sur des chrétiens qui me parlent avec beaucoup d'aplomb des couronnes en tout genre, des récompenses diverses qui attendraient les croyants au ciel, selon qu'ils ont fait plus ou moins. Et selon eux, la Bible cautionnerait une sorte de gradation entre les uns et les autres. Comme si ça devait nous motiver à œuvrer plus que d'autres croyants à travailler dur. Qui sait, au bout du compte, peut-être que ma couronne aura plus de pierres précieuses que la tienne. Frères et sœurs, est-ce vraiment cela l'évangile de Jésus-Christ ? Au contraire, ne nous faudrait-il pas nous réjouir de ce qu'une foule de pécheurs puisse nous passer devant ? Je veux bien croire qu'on se réjouit que le voleur sur la croix de Luc 23 nous soit passé devant, qu'il ait été le premier à entrer au paradis. Très bien pour lui. Mais si cette expérience devait se renouveler des centaines de fois, sous nos yeux, qu'est-ce qu'on en penserait ? Qui aime céder sa place dans une queue ? Et si ce genre d'expérience devait être élevé au rang de principe évangélique, qu'est-ce qu'on penserait de l'organisateur de cette farce ? Par le passé, j'ai eu l'occasion de courir quelques marathons, ça date un petit peu. À l'arrivée d'un marathon comme le marathon de Paris, il y a comme un entonnoir pour forcer les coureurs qui arrivent en grand nombre, qui sont lancés, à s'ordonner petit à petit, de sorte qu'au moment de la ligne d'arrivée, au moment où les chronos sont relevés, où le classement est arrêté, l'ordre d'arrivée, il a profité d'une dizaine de mètres pour s'établir tout naturellement. Et les coureurs arrivent en file indienne. Quant à moi, j'ai plutôt des mauvais souvenirs de cette séquence ultime. On est en bout de course, plutôt fatigué. Et je me suis toujours fait bousculer par des larrons qui ont encore la force pour sprinter. qui arrive à nous déborder dans les dernières secondes pour gratter quelques secondes et quelques places au classement. Quand c'est anecdotique, ça pourrait nous faire hausser les épaules. Maintenant, imaginez que vous avez fait les 42 km. Vous avez commencé sur la ligne de départ, comme tout le monde. Vous avez suivi la route comme il faut, kilomètre après kilomètre. Et le plus souvent, cette route est une boucle, parce qu'il est pratique d'avoir la zone d'arrivée au même endroit que la zone de départ. Et vous êtes donc à une cinquantaine de mètres de l'arrivée, épuisé par la course. Et là, une foule de personnes arrive de côté, vous coupe la route, prend les devants. Eux sont partis de la zone de départ 5 minutes plus tôt, ils ont fait le tour des deux pâtés, et les voilà sur la zone d'arrivée, avant vous. Et ils sont tellement nombreux que vous ne pouvez pas aller plus loin, pas tout de suite encore. Pendant ce temps, le chrono tourne encore. Vous attendez la médaille, la bouteille d'eau, la banane et tout le reste. Est-ce que vous auriez le sourire aux lèvres à faire un geste élégant de la main et dire après vous à toutes sortes d'individus aussi cavaliers que ceci? Et là, si nous n'en sommes pas là, c'est sans doute que nous n'avons pas compris la bonté de Dieu. C'est délibérément qu'elle surabonde, afin de porter plus loin que la seule logique ne le suggérerait. Notre Dieu veut vraiment combler le plus grand nombre. Et on a peut-être tendance à oublier un peu vite que la bonté divine, elle s'est déjà manifestée à notre égard, si nous sommes chrétiens, à ce jour. Les ouvriers de la première heure n'étaient pas des ouvriers du domaine. Eux aussi, le maître est allé les chercher en dehors de sa maison. Il les a employés à quelque chose d'exceptionnel, une aventure, une récolte en un jour, du jamais vu, quelque chose de très très excitant. Tous les ouvriers de cette parabole sont des pièces rapportées. Ils peuvent être reconnaissants au maître. Quel ouvrier trouverait à se plaindre? Rappelons-nous qu'au verset 29, il a été question que des disciples reçoivent au centuple. Dès lors, pour les premiers appelés, c'est déjà la fête. Qu'il fait bon à son service? Qui a besoin de plus? Et il serait là à tout gâcher, comme on le voit dans l'histoire, parce qu'à côté d'eux, au dernier jour, au moment de la paye, il y a toutes sortes de personnes qui n'ont pas moins qu'eux. Tout ça nous interroge, je crois. Est-ce qu'il ne nous arrive pas de regarder d'autres chrétiens de travers et d'en penser pas moins? Est-ce qu'il ne nous arrive pas de ressortir les comptes de temps en temps, de compter nos blessures, nos peines et nos douleurs? Mes amis, le royaume des rachetés ne se prête pas à faire les comptes et à comparer. On n'en est plus là et c'est mieux comme ça. Qu'il fait bon à son service, un point c'est tout. Et à propos de cette parabole, un commentateur évoque avec raison, je crois, non seulement une parabole de grâce, mais aussi une parabole de jugement. Parce que sur la fin, le maître montre bel et bien la porte à celles et ceux auxquels sa bonté ne plaît pas. Regardez le verset 13 et suivant. « Le maître répondit à l'un d'eux, « Mon ami, je ne te fais pas tort, n'as-tu pas été d'accord avec moi pour un denier? Prends ce qui est à toi et va-t'en. Je veux donner à celui qui est le dernier autant qu'à toi. Ne m'est-il pas permis de faire de mes biens ce que je veux? Ou bien vois-tu d'un mauvais œil que je sois bon ?» Au verset 11 et 12, tous les ouvriers de la première heure étaient là à murmurer. Au verset 13, l'un d'entre eux, mais heureusement, seulement l'un d'entre eux, n'arrive toujours pas à digérer les voix du maître. Pour cet ouvrier-là, c'est mal parti, j'ai l'impression. Finalement, la bonté qui caractérise le royaume, c'est pas son truc. Finalement, il n'a jamais vraiment aimé interagir avec le maître. Finalement, c'est avec ressentiment qu'il a suivi le Christ jusque-là. Et nous, où en sommes-nous dans notre vie chrétienne, dans notre relation au maître? Déjà, je crois que pour ceux d'entre nous qui ont été chrétiens depuis quelque temps, qui ont beaucoup peiné, avouons qu'il est très effrayant de se reconnaître aussi facilement dans la peau des premiers ouvriers. Chrétiens confessants, nous sommes d'une curiosité, je crois, dans le monde. Peu d'entre nous sont puissants, sages ou nobles selon les critères humains. Et pourtant, dans nos petites têtes, nous voilà à nous penser premiers, à nous représenter cet ordre des choses à jamais, à nous taper sur l'épaule et nous féliciter. Combien il est facile, si on ne fait pas attention, de représenter l'Église de Dieu comme un peuple avec des chrétiens de première classe, typiquement nous, des chrétiens de deuxième classe, des retardataires. Et on voudrait que ces retardataires ressentent à jamais un résidu perpétuel de honte, de culpabilité, pour le bon ordre des choses. Et si le Seigneur voulait enrôler à nos côtés aujourd'hui quelqu'un au passé chargé, quelqu'un qui rentrerait dans cette chapelle de Nesle, est-ce que nous ne l'accueillerions pas avec supériorité? Combien nous sommes loin de la bonté de Dieu. Lui veut s'adjoindre les services des dernières personnes auxquelles nous pensions. Et nous, nous voulons les garder bien à leur place. Heureusement, celui qui est meilleur que nous est le maître. Il ne manquera pas d'inclure le plus grand nombre en pas moins grande pompe. Tapis rouge, tous rassasiés, tous comblés. Tel est l'évangile de Jésus-Christ, généreux, troublant, déroutant. Et je dis déroutant parce qu'en définitive, je n'exclus pas que sa manière de faire pourrait provoquer une sortie de route pour beaucoup, qu'ils soient non-chrétiens ou chrétiens. Il y aura des gens pour qui la bonté de Dieu va décidément beaucoup trop loin. Si on ne murmure pas un peu contre la bonté de Dieu, je crois qu'on n'a pas compris l'évangile. Il est normal de murmurer en tombant sur un pareil Dieu. Mais si on en reste à murmurer contre la bonté de Dieu, c'est qu'on n'a pas aimé l'évangile après réflexion. Mais avant d'aller aussi loin que ça, faisons bien attention. Il n'y a de fait nulle part ailleurs que dans le bon royaume des cieux. Alors que ça nous enchante ou pas, que ça nous dérange, que ça nous bouscule, je vous invite à vous laisser façonner par la bonté divine aujourd'hui pour ne pas être surpris demain. Mieux vaut être bousculé aujourd'hui plutôt que reconduit vers la porte demain. Heureux celles et ceux pour lesquels la bonté de Dieu n'est pas une occasion de chute. Et si on a du mal avec le fait que la bonté de Dieu puisse rattraper sur le tard des fainéants, des voyous, des criminels, des pervers, des exploiteurs, des riches, eh bien, considérons que, puisqu'il en est ainsi, la bonté de Dieu pourrait tout aussi bien rattraper la vie des membres de nos familles, des gens qui ne sont pas encore chrétiens et qui nous sont chers. Envers des gens qui nous sont proches, ne voudrions-nous pas que le Christ surabonde afin qu'il soit donné à ces gens de partager la plénitude de la vie éternelle avec nous, et même avant nous s'il le faut? Pourquoi serions-nous moins bons envers des gens qui ne sont pas moins paumés que nos proches? Il nous faut conclure. Ma prière avec ce passage nous bouleverse pour que nous puissions vivre et évoquer un royaume plus large, plus généreux, plus excellent, un bon royaume, un royaume où la bonté divine règnera à jamais. Imaginez-vous ce bon royaume au dernier jour. Le raisin aura été récolté, la grande œuvre s'achèvera, le travail aura été bien fait. La limonade sera fraîche au frigo, le barbecue sera allumé. La fête des récoltes pourra commencer. Cette fête, elle est pour vous, comme elle est pour les autres, tous les autres, petits et grands, forts et faibles, premiers et derniers. Cette fête, elle n'est pas pour les bons, non. Car un seul est bon, et c'est Dieu. Mais cette fête est pour celles et ceux qui veulent bien recevoir de Dieu sa bonté, toute sa bonté, sans réserve, même quand elle nous prend à rebrousse-poil, même quand elle se manifeste envers les autres. Cette fête, est-ce que vous voulez bien en être, alors et à jamais? Auquel cas, il va falloir accepter d'en vivre dès à présent. Soyons bons, comme notre maître est bon. Regardons autour de nous. Réjouissons-nous de ce que les pécheurs font partie de l'aventure. Cédons-leur la place. Épaulons-les. Nous sommes bien entourés. Merci Seigneur. Nous verrons des choses merveilleuses à son service et plus long est notre chemin, plus nous verrons de belles choses. Ne reprochons pas au Seigneur de nous avoir appelés tôt. Il y a de belles œuvres dans lesquelles nous pouvons marcher. Dans quelle autre vigne voudrions-nous travailler? Dans quelle autre vigne voyons-nous des gens venir, être transformés, rentrer dans des œuvres profitables, avoir des vies bouleversées? Pour quel autre maître que ce bon maître voudrions-nous travailler? Pierre est venu vers le Christ, il a œuvré, il a peiné. Mais quand le Christ lui a dit « Peux-tu toi aussi t'en aller ?» Il a dit « Où irions-nous » Il en va de même pour nous, chrétiens de longue date ou jeunes chrétiens. Qu'il fait bon au service de Jésus-Christ. Je vous propose de prier ensemble. Grand et bon Dieu, tu veux que ton peuple soit complet et complété par toutes sortes de gens, des petits, des grands, des forts, des faibles, des premiers, des derniers. Merci de ce que tu es prêt à appeler et à mobiliser des gens parmi les moins recommandables. Que cette disposition de ta part ne vienne pas nous endurcir, mais plutôt nous émouvoir. Toi seul es bon. Alors apprends-nous à nous défier de nos valeurs, de nos références. Ton économie n'est pas notre économie. Tu administres ta maison comme bon te chante. Et c'est très bien ainsi, sinon nous serions dehors. Si ta bonté n'était pas là, nous n'aurions pas de place à tes côtés. Garde-nous alors d'entretenir une chrétienté qui soit faite de gens bien. Veuille agrandir ton royaume, y faire entrer toutes sortes de personnes. Apprends-nous à accueillir encore et toujours tous ceux que tu voudras nous envoyer. Apprends-nous à les épauler, à œuvrer à leur côté, même des bras cassés, même des individus douteux, même des opportunistes. Réapprends-nous ce qu'est vraiment la bonté. Apprends-nous à nous faire passer en dernier. Et alors que nous faisons cela, alors que nous perdons nos vies ici-bas, au service d'autres, montre-nous que nous n'avons rien à perdre à vivre ainsi. Montre-nous le bonheur qu'il y a à être de simples serviteurs parmi tant d'autres. Nous prions toutes ces choses au nom de Jésus-Christ, au service duquel il fait bon vivre. Je vous propose de prendre quelques instants de silence avant d'entonner un cantique.